Frères et sœurs bien-aimés, vous l'imaginez, il y a bien des manières de méditer sur la passion du Christ. Et j'aimerais retenir une manière particulière, celle de réfléchir, de méditer sur le mystère du Judas. Vous pourrez réfléchir sur d'autres personnages, et vous pourrez le faire à votre tour, parce qu'il y a bien des personnages, bien sûr Jésus, bien sûr Pilate, la servante, Pierre, la foule, et se mettre dans chacun de ces personnages et vivre la passion de l'intérieur. Mais la question de Judas reste vraiment un mystère. Un mystère parce que il a été appelé. Il est disciple, il a été appelé, il a été aimé, il a été choisi. De là, on peut tirer déjà une première conclusion. Il ne suffit pas d'être appelé pour être fidèle. Il suffit parfois l'appel de Dieu, il ne suffit même pas d'écouter la parole de Dieu, parce que Judas a écouté les béatitudes, il a vu les miracles, il a vu l'eau transformée en vin, parce qu'il était aussi aux noces de Cana. Jésus était là avec ses disciples. Tant de choses, il était témoin de l'action de Dieu. Il ne suffit pas d'être témoin de l'action de Dieu pour être fidèle. Pire encore, quand le cœur n'y est pas, ces différentes grâces dont on est bénéficiaire, que l'on voit, peuvent même se retourner contre le Christ lui-même. On peut poser les actes extérieurs du disciple, mais le cœur n'est pas là. On peut poser les actes extérieurs de l'amour, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme, les actes extérieurs de l'amour, et être très loin du commandement nouveau. Oui, frères et sœurs bien-aimés, cette vocation de Judas et cet amour que le Christ a eu pour Judas est pour nous une source de réflexion. Une source de réflexion parce que nous aussi, nous avons été appelés. Si nous sommes dans cette chapelle, c'est que nous avons été appelés d'une manière ou d'une autre, tous. Nous avons été témoins de grâce particulière, parfois des miracles, mais le plus souvent c'est des grâces spirituelles que l'on a pu vivre dans tel ou tel moment de notre vie. Et on voit bien que plus on connaît Jésus, plus il y a un combat intérieur. Parce que ce n'est pas le fait de connaître le Christ, ce n'est pas le fait d'expérimenter son amour qui va faire de moi un vrai disciple. De certaine manière, plus je connais le Christ, plus il y a d'enjeux que je puisse aussi le renier, me retourner contre lui, retourner ce qu'il m'a donné contre son royaume, contre la grâce et le salut qu'il veut donner au monde. Vous voyez, dans l'évangile de Saint Jean, il n'y a pas de récit de l'institution de l'Eucharistie, vous le savez. Il y a le lavement des pieds. Mais il y a une seule communion dans l'évangile de Saint Jean, c'est la communion que Jésus donne à Judas. Il n'y a qu'une seule communion. Il prend du plat et lui donne. Celui-là me trahira. Vous voyez, la communion, ce geste d'affection, d'amour, d'offrande, se retourne contre le Christ lui-même. Et c'est là où il y a quelque chose qui nous laisse vraiment sans voix, de dire comment à ce point-là le cœur peut-il s'endurcir pour que même ce geste de communion soit le lieu où le diable a pu rentrer dans Judas, c'est ce qui est dit dans les textes, et le diable entra en lui alors qu'il a expérimenté l'amour. Quel mystère! Quel mystère pour nous aussi qui avons expérimenté l'amour du Seigneur, qui parfois posons les actes du disciple, mais notre cœur est loin de lui. Quel mystère pour nous de sentir que le Seigneur veut nous toucher de l'intérieur. Alors certains diront, n'était-ce pour, peut-être pour que, il y a plusieurs interprétations, mais était-ce parce que Judas voulait pousser Jésus jusque dans ses derniers retranchements, qu'il montre vraiment qu'il est le Messie, et le Messie ne peut pas mourir, c'est pas possible, il ne peut pas être crucifié. C'est une hypothèse. Mais est-ce qu'au fond, Judas ne fait pas partie du plan de Dieu? Du plan de Dieu qui a commencé aussi dans un jardin. Et il s'est agi de jardin par deux reprises dans l'évangile que nous venons de lire. Ce plan de Dieu qui s'accomplit aussi dans un jardin. Et c'est là où les mots nous manquent, parce qu'on se dit « Judas accomplit la promesse de Dieu ». Et c'est notre foi que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui peut paraître le plus opposé, le plus abject, comme cette trahison, trahison de l'amour, ça accomplit mystérieusement le plan de Dieu. Ce plan de recréation. Comme le démon était présent aussi en la Genèse, au jardin de la Genèse, eh bien, il est présent aussi à ce moment-là, quand il entra dans Judas. Et en embrassant, en se laissant embrasser par Judas, le Christ embrasse tout le péché du monde. Il embrasse ce qui est le plus contraire à lui pour le sanctifier par la puissance de sa grâce, parce qu'il est Dieu. Il a cette capacité d'embrasser ce qui s'oppose à lui, ce qui le nie lui-même et d'en le transformer. C'est notre foi. Nous croyons que par sa passion, le Christ s'avance de façon déterminée et on voit bien à plusieurs reprises comment rien que le fait de dire « c'est moi » fait que les soldats tombent à terre. Là, il y a une force qui habite le Christ, la force de l'amour. Alors oui, le mystère de Judas pour nous est quelque chose qui nous invite à une grande humilité et à interroger notre cœur. Où en est-on de cet appel du Seigneur, mais qui ne garantit pas notre fidélité? Où en est-on de ces actes que l'on pose parce qu'on aime Jésus, qu'on pose extérieurement? Sont-ils le signe d'une attitude intérieure, où notre cœur est-il loin de lui? Et le nom que Judas a donné au Christ, a dit au Christ, c'est le nom évidemment au Fils, c'est le nom au Père, c'est un nom au Saint-Esprit. Il a nié tout l'amour qui vient de la Trinité. Le Saint-Esprit qui est aussi un baiser. Un baiser du Père et du Fils. C'est le péché contre l'Esprit. C'est le péché contre l'Esprit. C'est le péché contre l'amour. L'Esprit, c'est l'amour. On va demander au Seigneur de venir en ce temps de où il y a une grande une gravité à travers la liturgie, cette grande semaine, que le Seigneur vienne revisiter notre cœur qu'il puisse venir par son Saint-Esprit, par un baiser de son Saint-Esprit, déraciner en nous ce qui pourrait s'opposer à la manifestation du Christ. Que par son Saint-Esprit, le Seigneur vienne purifier, recréer, faire de nous des créatures nouvelles, élevées par la grâce, qu'il vienne nous visiter par son Saint-Esprit, qu'il vienne éloigner de nous le démon et ses tentations, le démon qui, nous le savons, comme un lion rugissant, est toujours tapis pour nous tendre des pièges. Notre vie est le lieu d'un combat spirituel qui nous dépasse. Notre vie est le lieu du combat de Dieu contre Satan. Et en Judas, on voit une manifestation de la victoire, d'une certaine manière, de Satan. À ce moment-là, il s'est laissé habiter par le démon. La haine qui habitait son cœur était loin de Dieu. Mais nous, nous croyons que le Seigneur veut triompher en chacun. Nous croyons à l'enfer. Nous croyons en enfer, c'est important. Nous ne savons pas qui est en enfer, Satan et ses anges. Mais nous croyons que la possibilité de nier Dieu, le connaissant, ceux qui disent qu'ils sont athées, qui nient Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu, bon, soit. Mais le connaissant, l'expérimentant de l'intérieur, peut-être même le voyant face à face, de le nier, ouvre les portes de l'enfer. Eh bien, nous croyons que l'enfer est précisément cet état spirituel que Judas a vécu, d'une certaine manière, sur cette terre. Alors, on va demander au Seigneur que, à travers cette méditation sur la passion du Christ, à travers ces paroles que nous venons d'entendre, nous prenions conscience de la profondeur de nos actes. D'une certaine manière, l'existence de l'enfer est aussi une preuve de notre liberté. Nous avons à nous prononcer face au Christ. Nous aurons dans le face-à-face à nous prononcer face au Christ et à son amour. Puisse le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, nous aider à reconnaître dans le Christ celui qui est notre Seigneur et notre Maître. Amen.